laboratoire lutte contre le Covid-19. Depuis un certain moment, plusieurs remèdes sont proposés pour soigner les personnes atteintes du coronavirus. Il s'agit notamment de l'hydroxychloroquine, mais aussi de quelques initiatives des chercheurs africains comme le mana-Covid et le Covid organique, dont les promoteurs vantent les vertus thérapeutiques. Alors, il n'y a pas encore de traitement officiel contre cette pandémie. Quel crédit accorder à toutes ces propositions? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mardi 28 avril 2020. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Dr Michel Mouvoudi, spécialiste en santé publique et membre de l'équipe des ripostes contre le Covid-19. Dr Mouvoudi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Francine Ndoya, pharmacien à la clinique Médecins des Nuits. Monsieur Ndoya, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Théophile Bemba, voilà, professeur à la faculté des sciences, département de biologie à l'université de Kinshasa. Il est spécialiste en biochimie cellulaire et en biochimie de la nutrition. Professeur Théophile Bemba, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions, vous auditeurs des Radio Capi. C'est le cas de Doux Mukalai depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Il y a des remèdes ça et là. Et ce qu'il y a à faire, ce sont des essais cliniques afin de déterminer l'efficacité de tous ces remèdes qu'on nous propose. Sprint Nishuli dit ceci, il y a à boire et à manger dans cette affaire des remèdes qu'on nous propose. Merci de nous suivre à Matadi, au Congo central, sur la sonde 2.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine. Radio
Okapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radio-okapi.net.
Avant d'aborder notre sujet de ce soir, rendons-nous d'abord au Congo central où deux cas de coronavirus ont été enregistrés à Matadi. Les résultats de l'Institut national de recherche biomédicale sont arrivés hier lundi sur place. Cela 4 jours après le prélèvement des échantillons. Le gouverneur du Congo central qui annonce cette nouvelle indique qu'il s'agit de 2 hommes qui sont déjà internés dans 2 centres hospitaliers de Matadi. À cet effet, l'autorité provinciale annonce à partir de ce mardi le port des masques obligatoires au milieu public à travers toute la province. Atou Matoubouana invite la population à ne pas céder à la panique. Le gouverneur du Congo central s'exprime au micro de Nana Plus Riche Mambou.
Très chers compatriotes, après la réunion d'évaluation avec la coordination provinciale de la riposte au coronavirus et à la suite des échantillons prélevés et envoyés à l'INRB Kinshasa, nous vous annonçons la confirmation de 2 cas positifs sur les 23 échantillons dans la ville de Matadi. Il s'agit des cas déjà isolés et mis en confinement depuis quelques jours par notre équipe de riposte. Ces 2 cas n'ont pas de notion de voyage ni de contact avec des personnes malades. C'est pourquoi, pour éviter la propagation de la maladie dans la ville de Matadi et dans l'ensemble de la province, les dispositions suivantes sont prises. Porter obligatoirement les masques en milieu public et dans les transports en commun. Respecter scrupuleusement les gestes barrières, notamment lavage des mains au savon ou au liquide hydroalcoolique, la distanciation sociale. Notez bien, d'autres mesures seront prises en fonction de l'évolution de la situation et vous savez pourquoi j'invite toute la population à ne pas céder à la panique.
Signalons qu'avec ces 2 cas confirmés du Covid-19, le Congo central rejoint la liste des provinces affectées par la pandémie du coronavirus en RDC. Désormais, la maladie touche 7 de 26 provinces du pays. D'après le décompte quotidien de l'INRB, à ce jour, le cumul des cas confirmés du coronavirus en RDC est de 471 personnes. Docteur Michel Mouvoudi, je rappelle que vous êtes spécialiste en santé publique et membre de l'équipe des ripostes contre le Covid-19 en RDC, 471 cas de Covid confirmés en RDC. En RDC, je voulais dire, les cas ne font que s'accumuler, une province de plus touchée par la pandémie. De l'autre côté, de plus en plus, on assiste à des propositions, des traitements contre le Covid-19. Docteur Michel Mouvoudi, la question que l'on se pose, quel crédit il faut accorder à tous ces traitements?
Merci beaucoup, Madame Kelly, pour cette invitation. Bonjour aux auditeurs de la Radio Capi. Je vais aborder deux petits points sur votre question. Donc, le premier point, je crois qu'on avait déjà discuté lors des émissions passées autour de la question de l'augmentation des cas. Je pense que nous sommes en phase d'épidémie, on augmente les stratégies de dépistage, c'est possible qu'on ait encore plus de cas. Donc l'idée ici, c'est qu'il faut qu'on augmente le dépistage, isoler ces réservoirs et les traiter. Mais encore une fois de plus, je pense qu'il est important que les provinces puissent renforcer leur gouvernance, principalement sur le respect des mesures barrières. Alors, deuxième point sur la question en rapport avec le traitement. Je l'avais déjà mentionné encore une fois de plus, je crois qu'il faudra d'emblée se dire que nous sommes devant une situation toute nouvelle. Le virus Covid-19, c'est vraiment un nouveau virus. Et donc, à notre sens, il est très important d'encourager toutes les recherches sur, n'est-ce pas, ce virus. Je crois que d'emblée, lorsque une personne un chercheur vous met sur la table une idée, parce qu'on voit justement qu'il y a beaucoup de talents qui sont en train de sortir durant cette épidémie. Si quelqu'un vous donne une idée, quelqu'un propose un médicament, un outil, on voit qu'il y a des gens, par exemple, qui vous proposent des lave-mains, il y a des gens qui proposent des respirateurs. D'emblée, je pense qu'il faut encourager cela. Donc, on devra justement quitter ce paradigme de croire que la solution ne viendra que de loin. Je crois qu'ici, en RDC, nous avons des talents, nous avons des compétences qui peuvent justement nous aider à réfléchir sur la problématique actuelle. Et pour moi, d'emblée, je crois qu'il faut encourager cela. Maintenant.
Mais depuis le début de l'apparition de l'épidémie ou de la pandémie en RDC, il y a des chercheurs qui se sont présentés avec des traitements. Malheureusement, on n'a pas tenu compte de leurs propositions.
Je pense qu'il faut quand même avouer que il y a des défis de communication qui se sont passés entre ces chercheurs et les équipes attitrées. Je dis bien attitrées à pouvoir valider ce protocole, madame. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que justement, quand vous avez une connaissance, quand vous avez une découverte, il y a toute une procédure qu'il faut suivre. Premièrement, pour pouvoir convaincre les comités scientifiques. N'oubliez pas qu'on a aussi un comité d'éthique au niveau du pays qui doit valider un certain nombre d'étapes par rapport à ce que vous voulez présenter. Mais de l'autre côté, je crois qu'il faudra évidemment que les gens comprennent que dans une situation où vous avez plusieurs initiatives de sortie des médicaments, des propositions de potions qui puissent être efficaces à la maladie, je crois qu'il faudra aussi ouvrir l'œil sur la régulation. Parce qu'au même moment justement où vous avez des gens qui veulent montrer qu'avec les ressources locales, qu'avec les plantes que nous avons dans notre pays, on peut trouver des solutions. N'oubliez pas qu'au même moment, nous avons aussi parfois de la falsification, nous avons aussi des personnes qui peuvent aller dans ce sens, non pas pour soulager la population, mais pour créer des problèmes. Pourquoi je pense que ça, c'est très important. Le deuxième point, je crois que au sein du ministère de la Santé, vous le savez bien, il existe tout un programme de la médecine traditionnelle. Il existe toute une direction du médicament et de la régulation pharmaceutique. Et il existe justement pour ces deux programmes des protocoles lorsque vous trouvez un médicament qu'il faut suivre jusqu'à la validation. Je crois que c'est très important. Mais d'emblée, comme je venais de vous le mentionner, il est très important qu'on ouvre, n'est-ce pas, les espaces à ce que les chercheurs qui ont des idées viennent. Non seulement parce que on peut avoir plusieurs traitements, n'oubliez pas que une maladie peut avoir plusieurs traitements. La malaria n'a pas qu'une seule molécule, vous pouvez en avoir plusieurs. Et donc pour moi, c'est important qu'on accélère ce niveau de recherche, principalement en capitalisant les ressources que nous avons au niveau local. D'une part parce que ça va coûter moins cher, mais d'autre part aussi, ça va permettre justement à fortifier l'économie locale et à avoir justement des facteurs multiplicateurs pour le reste du jour.
Et ces chercheurs qui ont déjà commencé à faire la publicité de leurs produits, ça veut dire, est-ce qu'ils n'ont pas suivi la procédure normale?
Alors, je ne sais pas vous dire à quel stade ce processus se situe, mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous découvrez une molécule, ben, il y a tout un dossier qu'il faut déposer à la direction de la pharmacie et médicaments et plantes médicinales. Ce dossier va être regardé, il y a des équipes, des spécialistes qui vont analyser et on devrait justement voir quelles sont les preuves qui sont dans ce dossier qui montrent que le médicament avait déjà été utilisé, que le médicament montrait des effets thérapeutiques ou de l'efficacité sur la maladie chez des personnes qui l'ont consommé, mais aussi que ce médicament n'est pas toxique. Donc il y a toute une procédure qu'il faudra suivre jusqu'à ce qu'on appelle l'obtention de l'autorisation de la mise sur le marché. Je crois que mon collègue pharmacien Francis va bien vous expliquer ça en détail. Mais je pense qu'à ce stade, je ne sais pas vous dire si ce processus a été suivi ou pas, mais ça, c'est une question qu'il faudra regarder.
Et donc, la population devrait se méfier de tous ces produits?
Je pense que lorsque vous vous mettez dans un processus, justement, de mettre sur le marché un produit, un outil potable à la population, je crois qu'il faudra quand même passer par cette phase de certification. Vous ne pouvez pas tout d'un coup partir de chez vous, vous sortez un médicament, vous en faites déjà la publicité et vous demandez aux gens de venir le consommer. Je crois qu'il y a quand même des étapes qu'il faut suivre. Tout en encourageant justement l'idée, il faut quand même arriver à faire preuve que ces médicaments-là ont été testés, ces médicaments-là peuvent justement être autorisés par l'État parce que c'est aussi une responsabilité. N'oubliez pas que, madame, nous sommes dans un pays où les médicaments qui sont des poisons, n'oubliez jamais ça, sont trop falsifiés. Nous avons eu des cas, par exemple, de la chloroquine qui est entrée dans ce pays. L'OMS avait alerté là-dessus, mais qui était falsifiée. Et nous avons eu dans ce pays des médicaments qui ont été retirés parce que tout simplement, qui ont montré après des effets néfastes sur la santé. Donc, dans cet environnement où d'une part, vous avez des très bonnes intentions, vous avez des chercheurs qui produisent des bonnes pratiques et nous reconnaissons dans notre pays des plantes justement qui ont ces vertus thérapeutiques, d'une part, mais d'autre part aussi, vous avez toujours des personnes qui viennent non pas parce qu'elles veulent montrer un médicament, elles veulent trouver une solution à un problème, mais malheureusement, parfois, qui veulent manipuler la situation pour tirer le profit. Donc, merci. Dans cette situation, il faut être assez rationnel, avoir une démarche très pragmatique et documenter tout ce qu'on voit pour que justement, on prenne la responsabilité devant la population d'autoriser ou pas un médicament qui est mis sur le marché.
Merci, docteur Michel. On vous dit, Francine Doya, vous êtes pharmacien à la clinique médecin de nuit. En tant que pharmacien, est-ce que la population devrait se méfier pour le moment de tous ces produits qu'on propose pour lutter contre le Covid-19?
Oui, madame. En fait, par rapport à tous ces produits proposés actuellement sur le marché des médicaments pour soigner le Covid, il faudra faire la part des choses. Nous sommes dans une situation où il y a une urgence, il faut soigner les malades, parce qu'on n'a rien sous la main pour les soigner. Entre-temps, pendant ce temps, il y a des chercheurs, nos collègues, nos confrères qui nous présentent des médicaments, qui malheureusement, quand je vois ces médicaments-là n'ont pas suivi la ligne normale pour avoir une autorisation, une homologation, pour avoir une autorisation de mise sur le marché. Normalement, un médicament pour être consommé dans notre pays, il doit avoir une autorisation de mise sur le marché. Alors, cette autorisation est accordée par la troisième direction de la pharmacie. Mais ça n'a pas été le cas, mais on nous le propose. Maintenant, les chercheurs qui nous le proposent, il y en a que nous connaissons, qui sont sérieux, qui ont fait leurs preuves par le passé. Aujourd'hui, nous amènent des médicaments. En tant que pharmacien, en voyant la composition de ces médicaments-là, on sait savoir directement que ces plantes ici peuvent soigner la grippe. Parce que n'oubliez pas que le Covid, c'est une grippe. Alors, à ce moment-là, on aura vraiment fait la part des choses. Je me réserve vraiment le droit de dire à la population de ne pas faire confiance à ces médicaments présentés, mais par contre de faire la part des choses avec le ministère de la Santé.
C'est-à-dire quoi, de faire la part de deux choses, Monsieur Francine Doya? La population, elle est ignorante, c'est vous, les experts, les spécialistes qui devraient aider cette population.
Oui, c'est ça justement. Nous devons aider la population à se faire soigner, mais on ne doit pas envoyer la population à prendre du poison, parce que les médicaments qui n'ont pas été autorisés à être consommés sur le marché local, normalement ces médicaments-là, on ne devrait pas être mis à la disposition de notre population. Mais c'est ce que j'ai dit là. Si je vois un peu ce qui se passe ailleurs, là, pour voir ce qui se passe en France, par exemple, avec le plaquénil, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, C'est vrai que c'est un médicament qui ne soigne pas, qui n'est pas là pour soigner le Covid, mais c'est un médicament qui, jadis, c'était un antipalidéen, qu'on peut aujourd'hui utiliser comme un produit qui soigne des maladies inflammatoires. On voit dans la manifestation de cette grippe-là, tous ces signes-là que ce produit-là peut soigner. Donc, on soigne les symptômes. Donc, on peut soigner les symptômes avec certains des autres remèdes-là que nos confrères pharmaciens nous présentent.
Alors, docteur, plutôt Monsieur Francis Ndoya, il y a cette question de Guy hein, qui nous écrit depuis Kinshasa, qui pose cette question par rapport à toutes ces propositions. Qui peut décider de l'utilisation des produits? Est-ce que ce sont les États qui décident ou c'est l'OMS?
L'utilisation des produits, d'abord sur le plan local, c'est la troisième direction de la pharmacie, la troisième direction de la santé. Là, c'est qui donne l'autorisation de mise sur le marché. Après, il y a l'homologation de l'OMS si le médicament va être utilisé sur les grandes échelles. Mais sinon, déjà avec la troisième direction, quand on vous donne l'autorisation de mise sur le marché, donc votre médicament peut être consommé.
Donc, on n'a pas nécessairement besoin de l'homologation de l'OMS quand c'est un produit qui devrait se consommer localement.
Oui, à mon humble avis.
Alors, il y a Dux Mukalaï, qui est au Katanga, qui pense qu'il faut faire des essais cliniques afin de déterminer l'efficacité de tous ces produits qu'on nous propose.
Oui, exactement. Les essais cliniques sont réalisés. J'ai vu dans notre groupe de pharmaciens qu'avec le confrère Bantangu, il y a eu des essais cliniques qui ont été réalisés, mais malheureusement, le comité scientifique de notre pays ne nous a encore rien dit à propos. Donc, les essais cliniques sont vraiment nécessaires pour tester de l'efficacité des médicaments.
Mais justement, on pointe aussi du doigt à ce comité scientifique de la RDC qui traîne les pas alors qu'il y a des propositions de traitements. Le comité scientifique fait comme s'il n'a rien vu, quoi.
Exactement, mais là c'est pas à d'autres niveaux, c'est au niveau du comité scientifique. Il faudra, je crois qu'avec l'équipe de la riposte là, on voit ensemble comment booster ces comités là pour que qu'ils continuent pas à traîner les pas dans la prise en charge. Dans la proposition des traitements qui sont faits par les différents chercheurs.
Merci Francine Doya, professeur Théophile Mbemba, professeur à la faculté des sciences, département de biologie à l'université de Kinshasa. Vous êtes spécialiste en biochimie cellulaire et en biochimie de la nutrition. Professeur, faut-il encourager les recherches locales? Allô, professeur? Professeur, est-ce que vous m'entendez? Je crois qu'on a un problème avec la ligne du professeur Théophile Mbemba. La réalisation va essayer de le rappeler. Un problème sûrement dû à la grosse pluie hein, qui tombe sur Kinshasa. En attendant de retrouver le professeur, on va redonner la parole à Dr Michel Mouvoudi avec cette réaction qui nous vient de Bukavu pour vous, Dr Michel.
Cher ici Rikupata Serge depuis Bukavu au sud Kivu. Je pense que maintenant il est temps de tester les remèdes proposés par les chercheurs africains. Car vu la situation dans laquelle le monde est actuellement, il n'est plus temps de négliger un remède proposé par qui que ce soit. Mais l'important, c'est de les tester d'abord et voir les résultats qu'il va apporter. Car les résultats montrent que ceux qui sont utilisés actuellement ne sont pas du tout efficaces. Et si on continue comme ça, on risque d'enregistrer beaucoup de décès, comme c'est le cas aux États-Unis et en Europe. Pourquoi ne pas se référer à quelques pays africains qui parviennent à résister face à cette pandémie grâce à leur traitement traditionnel, qu'est de continuer avec cette fameuse chloroquine et autres qui ont déjà donné de mauvais résultats dans beaucoup de pays, même dans notre pays, vu le nombre de décès par rapport aux cas guéris. Soyons vigilants, ce sont des vies humaines qu'on est en train de perdre.
Et docteur Mouvoudi.
Oui, merci beaucoup à notre collègue de Bukavu pour sa question. Non, je pense qu'il y a deux petits points dans ce qu'il a dit. Hein. Dans le premier point, Il faut quand même avouer que la RDC a enregistré, même si on a déploré les décès, mais on a enregistré quand même 50 guéris, Madame Kelly. Et les 50 guéris, c'est sous le protocole de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, de la vitamine C. Il faut avouer quand même que ce protocole n'a pas que de mauvais résultats. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui que le souci ici, c'est de guérir le plus grand nombre de malades. Et donc, c'est comme ça, justement, que je l'ai mentionné dans mon introduction en disant, autour en ayant ce qu'on est en train d'utiliser maintenant et les malades qu'on est en train de soigner qui montrent des guérisons chez certains, je crois qu'il faudra continuer la recherche parce qu'on peut justement avoir des molécules qui soignent le plus de gens et qui les traitent bien. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et sur ce point, je crois que le pharmacien Francis l'a aussi mentionné, on n'est pas contre qu'on puisse justement fortifier les expériences locales. On veut tout simplement que cela se mette dans une procédure. Pourquoi il faut le faire ainsi? Parce que justement, il faut protéger la population, mais aussi il faut savoir que lorsque il y a des chercheurs qui viennent avec des propositions, il faut les encadrer, mais aussi assurer que ces médicaments ne puissent pas créer des problèmes dans la population, ou alors qu'il y ait des personnes qui utilisent cet espace pour justement mettre sur pied des produits qui ne peuvent pas être potables pour la population. Je crois qu'il a raison. Il faut justement combiner plusieurs outils, il faut combiner plusieurs possibilités dans le souci d'augmenter l'efficacité de nos traitements et d'en diminuer sensiblement la toxicité.
Alors, il y a Franck aussi qui nous écrit depuis l'ICASI, qui vous pose à vous, docteur, cette question. Il demande pourquoi les chercheurs africains ne peuvent pas se mettre tous ensemble et trouver un remède contre le Covid-19 au lieu d'attendre tout de l'Occident.
Alors, ce que vous devez savoir, Madame Kelly, c'est qu'en fait, La recherche a toujours été un défi pour l'Afrique, en tout cas dans tous les domaines. Et je peux vous donner une information. En 2006, moi, personnellement, j'avais participé à l'élaboration d'une stratégie de renforcement du système de santé de la RDC. Et on avait comme un axe dans cette stratégie le renforcement de la recherche sur le système de santé. Et vous allez voir, madame, que même les budgets alloués à la recherche dans notre pays et partout en Afrique, dans la plupart des pays, c'est vraiment faible. On alloue très peu d'argent à la recherche. La recherche coûte de l'argent. On a justement ici un ministère de la recherche scientifique. Je ne sais pas comment ce ministère marche, mais ce que je sais, c'est que nous avons toujours fait un plaidoyer pour que l'État alloue suffisamment de moyens à la recherche. Et pour moi, je crois que cette épidémie au Covid-19, je vois vraiment que c'est une opportunité parce que chaque jour qui passe, je vois qu'il y a des gens qui ont des innovations. Je vois qu'il y a des personnes qui veulent proposer des choses. Pour moi, c'est une très belle occasion de faire des consortiums, de créer des plateformes d'échange. Si aujourd'hui, il y a un pays comme le Madagascar qui peut nous apprendre ce qu'il a fait pour pouvoir garder son taux de mortalité très bas, il y a d'autres pays d'ailleurs qui ont des taux de mortalité très faibles. Je crois que nous avons à apprendre les uns les autres. Et pour moi, j'encourage justement l'émergence des plateformes de chercheurs africains, pas seulement à cause du Covid-19. Je crois qu'on aura encore d'autres problématiques, d'autres défis de santé sur lesquels on devra faire un effort pour trouver des solutions collectivement.
Merci. On me signale que le professeur est en ligne. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, de plus en plus, on assiste à des propositions, des traitements contre le Covid-19, même si officiellement, il n'y a pas encore un traitement officiel contre cette pandémie. Est-ce qu'il faut accorder du crédit à tous ces traitements que certains chercheurs africains, parce que nous sommes en Afrique, on parle de l'Afrique, spécialement en RDC, particulièrement en RDC, faut-il accorder du crédit à ces traitements?
Merci. Bien entendu que la situation des Covid appelle effectivement des traitements pour qu'on puisse mettre le plus rapidement fin à la pandémie et permettre la reprise normale de la vie. Mais ce qu'il est aussi important de savoir, c'est que la vie humaine est sacrée. C'est même institutionnalisé dans notre constitution. Et de ce point de vue, donc, un médicament, c'est un corps étranger qui va dans l'organisme humain. Il faut qu'il rassure, qu'il sécurise, qu'il apporte, qu'il conforte la vie de celui qui le reçoit. Ce sont des composés xénobiotiques. C'est pour cela que la fabrication de médicaments nécessite énormément de recherches scientifiques. Aujourd'hui, il y a plusieurs médicaments qui sont proposés contre le COVID-19. Rassurez-vous que ces médicaments ne sont pas proposés au pifomètre, c'est-à-dire au hasard. Ils sont toujours précédés par deux recherches. Et ces recherches vont chercher à montrer, à atteindre le principal mécanisme viraux d'infection des cellules humaines. Et ils vont chercher à gêner la réplication du COVID-19. Et aussi, ces recherches cherchent à connaître le mode d'action de ce médicament. Donc, voyez-vous, et c'est suivi de beaucoup, de plusieurs publications scientifiques dans des revues internationales. Hein, je vous cite un exemple, une des publications qui était donnée, parce que dans tout ça, je crois que nous devons, il est important de savoir comment le coronavirus pénètre dans nos cellules et comment il se réplique. Alors, dans son cheminement de pénétration et de réplication, hein, on sait que d'abord il faut qu'il soit activé, hein, parce qu'il a une protéine qui doit être rompue, hein, et il y a une enzyme qui l'active, qui est dans le corps. Hein, on sait qu'il doit atteindre un récepteur au niveau de la cellule pour fusionner et par endocytose maintenant entrer dans la cellule. On sait qu'il faut que le milieu à l'intérieur de la cellule soit disposé à l'accueillir. Donc, il faut que ce soit un milieu comme il se développe bien dans des milieux acides. Il faut que le milieu soit acide. Et il faut qu'il aide à ce que il se réplique. Parce que c'est un virus, on dit en science, c'est un virus ARN. Donc, la molécule qui la compose principale, son gène, hein, il se réplique. Et puis après, il va chercher des acides aminés, des protéines du corps, pour lui-même se replier, se répliquer et envahir l'organisme. Et donc, le médicament, les différents médicaments qu'on cherche à trouver, c'est pour atteindre l'une ou l'autre de ces étapes. Il y a eu, par exemple, une dizaine de molécules qui avaient été essayées, qui avaient été testées au niveau de laboratoire pour sur COVID-19 dans la recherche des médicaments. Hein, et on a vu que une dizaine de ces molécules étaient capables d'inhiber justement un élément du COVID qui l'aide à se multiplier dans la cellule. Et on a dit là, c'est une piste. On sait que la chloroquine est utilisée. C'est parce que la chloroquine empêche le changement du milieu cellulaire, hein, gêne justement le COVID lorsqu'il veut entrer dans la cellule. Et là, on trouve un médicament, on dit ça peut aller parce qu'il ne pourra plus survivre. Hein, on sait que il y a une molécule qui peut gêner sa réplication au niveau de son ARN messager pour qu'il se dédouble. Hein. Et donc, voilà, c'est des produits comme ça. Donc, sur base de toutes ces recherches, on arrive à proposer, à trouver ces molécules. Et alors, à ce moment-là, on suit la procédure qui permet qu'il soit par le pharmacien, la dose soit définie et
aujourd'hui,
puisse être utilisée.
Aujourd'hui, professeur, il y a plusieurs traitements qui sont proposés par certains chercheurs. Du coup, la population est un peu perdue. Est-ce qu'il faut prendre tel produit ou tel autre pour se soigner? Finalement, on ne sait pas trop. Il y a comme une sorte des ordres dans le domaine, quoi.
Oui, ben. C'est qu'il y a, bon, je crois qu'il y a, il y a l'État qui est appelé à mettre de l'ordre, hein, avec, il y a un comité scientifique, il y a des autorités qui suivent, et c'est eux qui sont appelés à remettre de l'ordre, à donner la confiance à la population. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, à côté de cette démarche rigoureuse, hein, il y a le fait que, traditionnellement, chez nous, il y a les plantes traditionnelles qui ont des vertus et qui ont démontré, sans peut-être qu'on aille juste à chercher, sans chercher à connaître nous-mêmes quelles sont ces molécules, et qui ont prouvé qu'elles pouvaient soigner. Et d'ailleurs, beaucoup de ces molécules sont extraites, ont été trouvées à partir de ces plantes et puis synthétisées ailleurs. C'est pour cela, en Chine, par exemple, après le coronavirus 2004, l'OMS, en 2004, avait demandé à ce qu'une étude soit menée pour pouvoir voir le rôle de la médecine traditionnelle en comparant avec les traitements conventionnels. Et les résultats de cette étude disaient quoi ? Elle disait que, voilà, il y a des traitements conventionnels et qui étaient beaucoup plus efficaces lorsqu'ils étaient accompagnés de la médecine traditionnelle, c'est-à-dire de portions de la médecine traditionnelle. Et c'est ce qui veut dire que, quelque part, on doit tenir compte aussi de cela. C'est-à-dire qu'il y a la rigueur, mais il y a la médecine traditionnelle qui existe. Nous avons des plantes qui ont des vertus, alors, qui peuvent soigner.
Vous encouragez donc toutes ces recherches?
J'encourage. Les recherches, pas seulement encouragées, doivent être redynamisées dans notre pays. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il faut absolument, absolument que l'occasion du coronavirus, cette opportunité du coronavirus, vraiment nous interpelle tous, les scientifiques, surtout les autorités, les décideurs, pour comprendre que la science, la recherche scientifique dans un pays pour qui veut rendre des services sérieux, pas des services importés, mais des services émanant de ses propres fils qui maîtrisent les milieux locaux, son milieu.
Merci.
Dans différents domaines, les milieux, oui, de ses propres scientifiques puissent être menés. C'est-à-dire qu'il y ait des laboratoires de haut niveau, pas seulement parce qu'ils sont appuyés par l'extérieur, mais parce qu'on veut un laboratoire de génie génétique à Lubumbashi, il faut qu'il marche. On veut un laboratoire d'immunologie à l'Université Kitwa, il faut qu'il marche.
Alors, il faut équiper nos...
Il faut qu'il y ait un consortium de chercheurs, vraiment que l'État fasse confiance à ses propres fils. Il y a plein d'intelligence dans ce pays.
Merci, professeur. On vous redonne la parole tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre cette réaction qui nous vient de Kolwezi pour Francine Doya.
Hervé Kabuya Wamukendi, depuis la ville de Kolwezi. Moi, personnellement, à mon enfance, je voyais nos mères utiliser les différentes herbes pour soigner d'autres maladies telles que Lukunga, Kasumbi, Lubika, et j'en passe les meilleurs. Et cette maladie ne s'est traitée qu'à la forme traditionnelle et qui n'ont pas de médicaments modernes jusqu'à aujourd'hui. Certes, le Covid-19 est une maladie importée, différente de celle dont je fais allusion. Jusqu'au moment actuel, aucune nation occidentale qui se dise aujourd'hui moderne n'a su proposer un protocole qui a fait l'unanimité au monde entier, ni encore moins l'OMS qui est une grande organisation mondiale s'occupant de la santé. Et pendant ces temps-là, le nombre de décès continue à croître. À mon avis, nous peuples africains, en particulier congolais, devons rentrer à l'authenticité et traiter cette maladie à la congolaise. Aussi longtemps que ces différentes propositions de protocoles ne constituent pas de poison, nous devons faire avec, en lieu et place d'attendre la solution venant d'ailleurs.
Monsieur Francine Doya.
À notre ami de Ikati.
De Kolwezi.
De Kolwezi. En fait, tout ce que monsieur a dit là, c'est la médecine traditionnelle. J'ai suivi avec intérêt tout à l'heure le professeur qui parlait de la recherche. Ces plantes-là utilisées à l'époque par nos parents, je me rappelle bien parce qu'il a parlé dans ma langue, là, il y a des plantes, des maladies que j'ai reconnues. Ces maladies étaient soignées à l'époque. Enfin, quand nous étions enfants, nous voyions nos parents soigner les autres enfants avec des plantes uniquement. Alors, on n'est pas contre ça. Ce que moi j'ai dit, je pourrais dire à notre ami de Colégie, c'est que on ne va pas tout prendre. Parce que rien ne prouve que ce ne sont pas de poisons. Tout à l'heure, le prof a dit que tout ce que nous ingérons là de l'extérieur, tout ce que nous prenons comme produit, ça va agir dans l'organisme humain. Alors, dans l'organisme humain, tout ce que nous présente comme ça, comme produit, on ne peut pas les prendre. Nous, à notre qualité de pharmacien, la composition d'un produit est très importante. Alors, quand on voit la composition d'un médicament, on peut se dire que ici, par exemple, comme il y a des polyphénols, comme il y a la vitamine C, comme il y a ça, et que la pathologie ici que nous avons a tel symptôme, cette molécule peut soigner. C'est sur base de là que les recherches ont commencé.
Alors, si on sait, on ne connaît pas la composition, à ce moment-là, il sera difficile de tout accepter. Donc, voilà comment je pourrais dire à notre ami de Colésie.
Alors, Monsieur Francis Ndoyaye, notre question, Pascal, qui nous écrit, Pascal Limbondo, depuis Badolité, il dit ceci, pour moi, j'estime qu'il est temps de vulgariser ce produit pour sauver des vies. Il est important d'agir en amont, en intégrant ces produits dans la thérapie, au lieu d'attendre l'autorisation de l'OMS, qui pour l'instant n'a aucun remède à proposer. Alors, la population a l'impression qu'on attend que l'OMS décide de quel produit utilisé pour sauver des vies, alors que on a des chercheurs qui peuvent aider avec leurs recherches, leurs produits à traiter cette pandémie.
Ben, moi, je n'ai pas, notre ami de l'IT Pascal, moi, je n'ai pas cette impression-là que nous attendons tout de l'OMS. Parce que quand je vois ce qui se passe ailleurs, il y a en France on a l'hydroxychloroquine, les Malgaches nous ont envoyé, nous ont présenté un autre médicament, un autre remède là qui soigne le Covid, qui soulage le Covid. Il y a ici localement, on a aussi des chercheurs qui ont fait des propositions. Donc c'est pas à l'OMS, nous n'attendons pas l'OMS. On travaille, il y a des gens qui travaillent jour et nuit pour proposer des traitements. Mais non, il faudrait que ces traitements-là ne soient pas toxiques. C'est vrai qu'on doit aussi suivre la procédure qui veut qu'un produit pharmaceutique comme ça, avant d'être pris, avant d'être consommé, il doit avoir une autorisation de mise sur le marché. Mais là, on est face à une pandémie. Est-ce qu'il faudra qu'on suive exactement cette procédure-là? Bon, c'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose là. Est-ce qu'on doit suivre rigoureusement la procédure des autorisations de mise sur le marché pour commencer à consommer ces médicaments-là?
Merci, M. Francis Ndoyaye. Professeur Théophile, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Jimbengo, Kisangani, ouest de la Sopo. Le monde entier est touché par cette pandémie de COVID-19 qui fait beaucoup de morts. Proposer des remèdes, c'est bien. Mais si l'efficacité des dix remèdes est douteuse, on ne peut pas s'hasarder. Au contraire, si ces remèdes sont réellement efficaces, pourquoi ne pas en profiter? Les conseils que beaucoup de scientifiques ne font que critiquer au lieu de donner des solutions. À ce stade, ce qu'il faut, à mon avis, c'est faire des essais cliniques beaucoup plus élargis et sérieux. Ensuite, choisir parmi ces remèdes ce qui est très efficace pour sauver la vie des patients. C'est le moment d'être ensemble pour tenter d'arriver à bout de cette pandémie. L'application de l'OMS 4HC est souhaitable.
Professeur Théophile Mbemba.
Merci. Je suis en partie d'accord avec lui. Il est vrai que nous avons une pandémie et qu'on doit être très attentif. La responsabilité revient d'abord à notre pays, aux instituts. Nous avons des dirigeants qui doivent décider en cette matière, dans ce domaine précis. Et c'est pour cela que il est appelé au gouvernement, aux institutions, d'être attentif à toutes ces propositions de médicaments qui sont faites. Alors, je sais qu'il y a eu un comité scientifique au niveau de l'INRB, à côté du professeur Mouyembe, mais il y a aussi un comité scientifique au niveau du ministère de la Recherche scientifique, je crois, au niveau pour le gouvernement. Je crois que c'est à être attentif, mais tout en considérant que la vie humaine est sacrée et qu'on ne peut pas oser décider sur quelque chose dont on n'est pas sûr. Ce qui est clair, c'est que quand on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé en Chine, ce qui vient de se passer au Madagascar, on regarde au niveau de la médecine des plantes traditionnelles, des plantes qui, pendant des millénaires, n'ont jamais posé un problème de toxicité. Et donc, ils ne sont pas toxiques. Et comme ils ne sont pas toxiques, d'ailleurs, c'est comme ça que la Chine avait vite décidé de l'exploiter lorsqu'il était en difficulté. Et je crois qu'à un moment, au Vietnam, on l'avait fait. Et le président malgache vient de le faire parce qu'il s'agit une plante, et là je parle de l'artémisia, dont la composition chimique est bien connue, dont les molécules qui peuvent agir contre le COVID-19 sont connues, des expériences ont été faites, et je crois que c'est ce qui a fait que, sur base de toutes ces informations, il y a eu quelques essais cliniques aussi, mais comme Jean Mouret, il évitait qu'il y ait des morts chez lui, mais il a pu décider sur base de ces éléments, certainement avec l'avis de ses scientifiques, de mettre sur le marché ce produit. Donc, il revient à être attentif à ce qui est fait, mais finalement, la décision qui doit être prise doit tenir compte du fait que la vie humaine est sacrée et il faut éviter d'apporter quelque chose qui soit toxique. Il faut éviter d'apporter quelque chose qui enflamme l'organisme, parce qu'un des gros problèmes de COVID-19, c'est ça. Hein, parce qu'avec la réaction d'inflammation, ça abîme beaucoup de choses dans les corps. Et donc, on doit faire très attention à tout cela. Ce ne doit pas, c'est pas une partie de plaisir. Il s'agit de la vie des hommes. Mais il y a des médicaments qui, pendant des plantes traditionnelles, des millénaires, n'ont pas posé de problème. Et donc, à ce moment-là, on peut prendre cette décision en sachant que c'est pour l'intérêt de la population.
Merci. Merci, professeur. Docteur Michel Mouvoudi, nous tournons vers la fin de notre émission. Il y a Alain Chirouliré, depuis Goma, qui dit ceci. Je pense que le secrétariat technique de la riposte du pays devrait aussi s'en approprier, je crois. Il parle de produits et puis faire leurs études aussi pour savoir si ces produits sont exactement efficaces ou pas, et non pas se désintéresser de ces derniers, car c'est l'impression que l'on a. Voilà.
Malheureusement, c'est une impression, elle n'est pas bonne, cette impression, madame. Donc, comme je vous l'avais mentionné, nous sommes dans l'optique vraiment de promouvoir la recherche locale, et nous sommes aussi dans l'optique des solutions combinées. Donc, à ce titre-là, il faudra justement fortifier toutes les initiatives locales qui visent apporter des solutions. Mais comme le professeur Bemba venait aussi de le mentionner, je crois qu'il faudra faire cela de manière régulée, de manière réglementée, pour justement préserver la vie de nos citoyens.
Merci, docteur Michel Mouvoudi. Francine Doya, votre conclusion.
Oui, en conclusion, les traitements qui nous sont proposés pour prendre en charge le COVID, je crois que tous ces traitements-là sont le bienvenu. C'est au comité scientifique et au comité de la riposte d'accélérer pour que on puisse nous proposer un protocole clair par rapport à tout ce que nous avons actuellement sur le marché, tous les médicaments qu'on a sur le marché.
Merci Francis Ndoya. Professeur Théophile Mbemba.
Je pense qu'il est important d'être attentif à tout ce qui est proposé, mais dans tous les cas, ce qui s'impose. Il y en a qui ont déjà, il y a des produits qui ont déjà fait l'objet de ces cliniques qu'il faudrait juste se renforcer et on peut vite passer à la vitesse supérieure.
Merci.
Dans tous les cas, ce n'est qu'en du fait que la vie humaine est sacrée.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Merci à Guy Maté qui était à la réalisation, assisté de Donna Madimba, supervision Axel Goncho. Mimi Kindou était à la prise de son, présentation et coordination Kéline Kouté. Prenez soin de vous et respectez les mesures barrières pour éviter la propagation du COVID-19. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.